RJB Info, le journal, Lydiane Guena, bonsoir.
Bonsoir. Une nouvelle filière bilingue voit le jour à Bienne. Les écoles de culture générale francophone et germanophone s'associent pour offrir des formations dans les deux langues dès la rentrée 2023. Présentation en ouverture de ce journal. Vadec Evolution, c'est le nom d'une usine qui doit valoriser à la Chaux-de-Fonds tous les déchets de l'arc jurassien d'ici 2030. À la clé, plus d'énergie produite pour moins cher et moins de pollution. Chef de gouvernement, ministre des Affaires étrangères et organisations internationales sont attendus à Lugano dans 4 jours pour le sommet sur l'Ukraine. Une conférence qui est importante car c'est la première de ce type depuis l'invasion russe. Météo, le ciel se fait de plus en plus menaçant sur la région. Des orages ont déjà pu éclater par endroits. D'autres arriveront dans la soirée. Les averses se généraliseront pendant la nuit et s'arrêteront progressivement d'ici à demain après-midi. L'offre bilingue s'étoffe encore un peu plus pour les étudiants de la région. Dès la rentrée 2023, l'École de culture générale de Bienne et du Jura-Bernois et la Farmettelschule Bilseeland proposeront une formation donnée à moitié en français et à moitié en allemand. Mathieu Orousseau, recteur adjoint du gymnase français de Bienne et responsable de l'École de culture générale.
C'est vraiment une opportunité pour la région. Les métiers auxquels mène l'École de culture générale dans la santé, le social et la pédagogie sont vraiment des métiers de contact humain. Et dans une région bilingue, avoir des futurs professionnels qui maîtrisent les deux langues, c'est très important. Et donc, avec l'opportunité du rapprochement ici sur le site avec la FMS Bilseeland, c'était l'occasion de lancer cette filière bilingue. Alors cette filière bilingue, elle s'adresse évidemment aux élèves qui sont déjà bilingues, qui auront par exemple suivi un cursus déjà bilingue à l'école secondaire, mais pas seulement. Pour nous, c'est très important que le bilinguisme puisse aussi se créer chez ceux qui ne sont pas déjà bilingues. Ce sera aussi ouvert aux élèves qui auront suivi un cursus monolingue. On espère vraiment qu'on va passer à une phase d'information auprès des écoles secondaires et des familles pour que cette offre de formation soit connue. Et on espère vraiment avoir des inscriptions en nombre et pouvoir lancer en 2023 cette filière.
Et avec le déménagement de Moutier à Bienne de l'École de culture générale francophone et donc le regroupement avec les filières du gymnase français de Bienne sur un seul site, l'établissement a décidé de changer de nom. Exit le gymnase français de Bienne. Dès la rentrée d'août cette année, ce sera le gymnase de Bienne et du Jura-Bernois. Un nom plus inclusif qui fait suite à de nombreux changements que nous rappelle la rectrice du futur ex-gymnase français de Bienne, Christine Gagnobin.
Depuis plus de 20 ans, il n'y a presque pas eu une année sans qu'il y ait eu des changements. Nous avons ouvert une filière bilingue avec le Deutsches Gymnasium. Ensuite, nous avons accueilli la passerelle d'Oups pour les élèves détenteurs d'une maturité professionnelle et plus tard spécialisée. Nous avons accueilli administrativement les MSP de Moutier dans notre giron. Et à partir de la fusion des gymnases biennois, notre école s'est encore agrandie avec l'école de commerce de Bienne. Et donc, au fur et à mesure de tous ces changements, il nous est apparu évident qu'il fallait changer la dénomination de cette institution qui n'est plus uniquement une formation gymnasiale, mais qui propose 5 filières de formation. Et donc, ce changement nous semblait important.
Toujours dans le domaine des études, les jeunes francophones du canton de Berne optent plus pour le gymnase que les germanophones. La direction de l'instruction publique et de la culture a transmis ce matin ses statistiques annuelles. 96% des jeunes qui sortent de l'école obligatoire dans la partie francophone du canton ont une solution de formation pour la rentrée. Les chiffres d'entrée dans une formation professionnelle initiale restent stables dans l'absolu. La proportion d'inscription au gymnase a augmenté de manière significative, atteignant 31% cette année, alors que dans la partie germanophone du canton, 22% des élèves choisissent cette voie. Le chef de la section francophone de l'Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle, Florent Cosandet, tente d'expliquer cette différence.
Jusqu'à maintenant, je dirais qu'il y avait peu de différence parce que l'apprentissage a une place de choix tant dans la partie alémanique du canton de Berne qu'aussi dans la partie francophone. Et là, je dirais que cette année, on a vraiment un phénomène particulier avec cette baisse en pourcentage de l'apprentissage, une stabilité en chiffre absolu, mais une baisse en pourcentage. J'espère personnellement que c'est que ponctuel et puis surtout que les entreprises qui cherchent des apprentis, qui ont besoin de relève, puissent occuper leur place ces prochaines années. Je tiens aussi à dire qu'il y a encore beaucoup de places qui sont inoccupées, donc il y a encore des jeunes qui cherchent des places d'apprentissage actuellement. Et puis je les encourage vivement à postuler aux places vacantes, il y a encore beaucoup de places libres qui sont à disposition.
Et pour ceux qui ne se seraient pas encore décidés, les contrats pour l'année d'apprentissage 2022 peuvent encore être signés jusqu'à fin septembre, voire octobre dans certains cas. Espace Découverte Énergie se donne un nouveau coup de boost. EDE a inauguré aujourd'hui dans les locaux de l'Expo Electro à Saint-Imier sa toute nouvelle salle Goji pour Go for Energy. Elle est destinée à l'accueil des classes et des groupes et vise à leur faire découvrir de manière interactive les transformations de l'énergie alors qu'une maquette illustre le potentiel de la région. Et c'est justement au-dessus de cette maquette que nous guide Moussia de Vadeville, directrice d'Espace Découverte Énergie.
D'abord, on crée le réseau, puis après, on envoie des électrons. OK. C'est bon ?
Est-ce que vous pouvez m'expliquer le rôle pédagogique d'un outil comme celui-là ?
Ben, en fait, c'est pour comprendre que le lien entre la consommation et la production est complexe. C'est pour comprendre aussi ce que c'est que l'électricité, quoi, d'où ça vient. Là, clairement, dans les centrales, vous avez vu qu'il y en a une fuite d'eau, donc c'est pas triste. Mais c'est du réel, quoi. C'est plus que qu'est-ce qu'il y a derrière la prise.
Vous pensez que pour des adolescents comme il y a aujourd'hui en visite, ça aide à mieux comprendre ce qui se passe?
C'est top parce que c'est du réel, on peut tout toucher et puis c'est du concret. Alors attendez, on va suivre. Maintenant, il faut relier le réseau. Courtlary n'est pas relié à Villeray. Je lâche un peu de la vapeur ici.
Là, je suis en train de tester une maquette qui représente un peu le vallon de Saint-Imier.
Et ton rôle sur cette maquette, c'est de faire quoi?
Je teste un peu. Là, il y a une éolienne et puis il y a plein d'autres trucs. Je dois relier tous les villages de vallon de Saint-Imier pour donner de l'électricité un peu à tout le monde. Quoi.
C'est ça le but, que tout le monde ait l'électricité?
Ouais, c'est ça.
Et puis, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apprend, toi? T'as pris quoi?
Moi, j'ai pas pris ça à l'école, donc ça m'apprend plein de trucs. Et puis, je trouve qu'elle est bien faite, la maquette.
Et Saint-Imier, qui c'est qui est ici? Il y a un petit village, là, il y a encore deux places. Qui c'est qui est là? Qui c'est qui vient? Allez, venez là. Choisissez un village, vous en restez. Alors, mettez-vous en réseau.
C'est quoi le but du jeu?
On a créé un circuit électrique avec des représentations de centrales thermiques, de villages, de centrales thermiques, d'éoliennes et centrales hydrauliques. Et puis on regarde à quel point un village peut consommer avec l'électricité qu'on produit avec les petites machines.
Qu'est-ce que ça t'a appris?
Moi j'ai appris qu'il fallait beaucoup relier avec d'autres villages pour avoir plus d'électricité.
3h du matin, on allume. Tu peux allumer l'éolienne, et bien il y a quelqu'un qui allume. Tu peux la presser. Ça, c'est ce qu'il y a de magique avec l'électricité, c'est que quand ça ne va pas, ça ne va pas. Puis des fois, ça tient à une micro peu de choses que ça ne fonctionne plus.
Un reportage de Léandre Béret. Toutes les informations sur cette nouvelle salle Gotchi sont à retrouver sur rjb.ch. Une petite révolution dans le paysage énergétique de l'arc jurassien. La société de traitement des ordures VADEC, en partenariat avec la compagnie énergétique Viteos, a présenté hier le projet VADEC Evolution. L'idée, c'est de construire d'ici 2030 à La Chaux-de-Fonds une usine unique de traitement des déchets pour tout l'arc jurassien. Le coût est estimé à 255 millions de francs. Une unité capable de fournir en électricité 20 000 ménages et 14 000 ménages en chaleur. Le réseau de chauffage à distance sera aussi progressivement étendu d'ici 2040. C'est l'évolution des normes de la Confédération qui pousse les partenaires à moderniser ces installations avec une amélioration des performances à la clé, le directeur de VADEC, Emmanuel Maître.
On va plus que doubler finalement la quantité de déchets incinérés sous de la Chaux-de-Fonds. Par contre, les émissions environnementales vont diminuer. Alors on a fixé un objectif clair, c'est qu'on veut être en dessous de 50% des normes actuelles. On a un autre objectif fixé par la Confédération, on ne peut pas construire une nouvelle usine d'incinération si on n'atteint pas les 80% d'efficacité énergétique. 80% c'est juste énorme. Donc on ne peut atteindre ça que si on produit du chauffage. Donc sur l'arc jurassien, c'est vite vu, c'est la ville de La Chaux-de-Fonds.
Les fréquents orages de grêle du mois de juin ont provoqué des dégâts pour au moins 20 millions de francs. C'est le premier bilan de Suisse Grêle communiqué aujourd'hui. La société d'assurance a enregistré environ 4 000 sinistres. Les cantons du Jura et de Berne sont parmi les plus touchés. Le sommet international sur l'Ukraine commence dans 4 jours à Lugano. Pour l'occasion, 15 chefs de gouvernement seront présents. C'est le premier ministre ukrainien Denis Shmigal qui fera le déplacement. Une quinzaine de ministres des Affaires étrangères seront aussi de la partie, tout comme 6 organisations internationales selon le département fédéral des Affaires étrangères. Face à certaines critiques sur le bien fondé de la tenue de ce sommet, alors que l'Ukraine est partiellement envahie par la Russie, l'ambassadeur suisse Simon Pidou met en avant les points forts de l'événement.
Je crois que simplement le fait d'être les premiers à pouvoir offrir cette première conférence est déjà en soi quelque chose d'extraordinaire. Là où l'Union européenne a juste annoncé qu'ils veulent faire quelque chose cet automne, le G7, la même chose, nous pouvons nous dire, nous le faisons. Le fait de pouvoir réunir ensemble tout le monde permet de donner une perspective aux Ukrainiens, permet de jeter les bases avec le comment on veut faire cette reconstruction. Et pour moi, c'est ça le plus important.
Il y a plusieurs dizaines, voire centaines de milliards qui sont en jeu. On sait que l'Ukraine a un problème endémique, c'est la corruption. Quelles sont vos conditions par rapport à ce problème-là ?
Dans la déclaration de Lugano, un des principes sur ce processus de reconstruction devra être justement lié avec le processus de réforme. Et là, tout le monde, y compris l'Ukraine, est d'accord. Donc, utilisons cette catastrophe pour transformer le pays, pour accélérer les réformes en cours.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Frédéric Nejad Toulami. Et la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine se tiendra lundi et mardi au Tessin, en présence du président de la Confédération, Ignacio Cassis. Et la Russie a affirmé aujourd'hui qu'elle détenait plus de 6000 prisonniers de guerre ukrainiens. Elle confirme aussi avoir échangé hier 144 combattants ukrainiens contre autant de Russes et séparatistes pro-russes.
Et à l'écoute d'RJB, il est 18h12.
Sport. La Suisse n'a plus aucun représentant en lice à Wimbledon. Victoria Golubic a mordu le gazon de Londres cet après-midi. Défaite de la Zurichoise au deuxième tour de ce tournoi de tennis du Grand Chelem. Elle a été éliminée par la Tchèque Barbora Krejcikova en 2 manches, 6-3, 6-4. Et dans le tableau masculin, un troisième joueur a dû déclarer forfait en raison d'un test positif au Covid. L'Espagnol Roberto Bautista Agut n'a pas pu tenir sa place pour son deuxième tour. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous souhaite une très belle soirée.